RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Il est minuit, je suis au Checkpoint Charlie, l'un des points de passage entre les deux Berlin, devant le mur. Mais depuis 3 heures déjà, il n'y a plus de mur de Berlin. Ces parpaings de béton, ces lourdes barrières métalliques n'existent plus.
Je suis très heureuse parce que je pense que c'est un moment d'histoire. Et je suis contente parce que je crois que personne ne peut enfermer les autres.
C'était le 9 novembre 1989, témoignage d'une institutrice allemande au micro RTL de Philippe Chaffangeon. On va refaire l'histoire en ce samedi matin où on refait le mur précisément. 30 ans donc pile après la chute de celui de Berlin. Bonjour Pierre Grosser.
Bonjour.
On avait besoin de l'historien que vous êtes, enseignant à Sciences Po, pour replonger dans l'histoire et parler aussi du présent. Votre livre 1989, l'année où le monde a basculé, est réédité aux éditions Tempus. 30 ans déjà. D'abord, est-ce que vous validez l'idée que ce soit fêté ?
C'est fêté pour essayer de se souvenir des jours heureux. Le problème, c'est que l'ambiance est un petit peu différente aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des voix pour expliquer que depuis 89, les choses sont allées de mal en pis et que on voit des tensions à l'intérieur de l'Europe, avec l'Europe de l'Est qui renie d'une certaine façon cette vague démocratique en revenant à une démocratie libérale, voire à l'autoritarisme. Et qu'on parle aussi au même moment de nouvelle guerre froide, c'est-à-dire qu'on aurait raté finalement l'avenir des relations avec la Russie dès 1990-91. Donc on a, à mon avis, un petit peu la gueule de bois. On a été très contents sur le moment, mais les événements allaient tellement rapidement à l'est de l'Europe à cette époque-là que finalement on n'a pas eu le temps de fêter ça, que déjà vous aviez des grandes manifestations en Tchécoslovaquie pendant tout le mois de novembre qui ont fait chuter le régime et mis Václav Havel, célèbre philosophe dissident, au pouvoir en Tchécoslovaquie. Donc on a eu l'impression d'une espèce de boule de neige d'événements, que tout l'histoire s'accélérait. Puis la fin décembre 89, ces images qui ont finalement eu presque plus d'écho à travers le monde, c'est l'exécution du couple des Ceausescu.
Est-ce que cette chute du mur, finalement, elle symbolise aussi l'échec du bloc de l'Est, du communisme de l'époque ?
Ah oui, ça, je crois que c'est quand même très très clair. Ce qu'il faut bien voir, même si aujourd'hui il y a une certaine nostalgie pour cette espèce de vie très particulière qu'on avait à l'Est dans les années 60-70, qui était une vie relativement frugale mais souvent heureuse, malgré effectivement un manque de liberté évident, c'est qu'il faut bien voir que tout le bloc communiste était quand même très largement en crise, et que la RDA, par exemple, dont on parle beaucoup et certains sont presque nostalgiques de la RDA, la RDA était totalement sous perfusion de capitaux allemands. La plupart des pays comme la Pologne et la Hongrie dépendait aussi très fortement des capitaux extérieurs. Pourquoi ? Parce que le système ne fonctionnait pas, et les démocraties populaires dépendaient aussi du pétrole soviétique qui arrivait à bas prix, très en dessous du prix du marché mondial.
La RDA que vous évoquez, c'était vraiment un autre monde ?
Oui, c'était un autre monde. D'abord, il faut bien avoir en tête que ce mur, c'est un mur très particulier. Aujourd'hui, on fait des comparaisons en disant qu'il y a des murs qui sont érigés un peu partout en Europe et dans le monde, mais c'est des murs pour empêcher des gens de rentrer. Là, c'est quand même très particulier, un mur qui empêche les gens de sortir, donc qui emprisonne d'une certaine façon sa propre population. Alors, ça n'empêchait pas qu'il y avait des possibilités de voyage, mais qui étaient très encadré. Si vous enfuyiez de la RDA, il pouvait y avoir des conséquences sur votre famille. Donc c'était une vie très particulière, mais qui avait aussi ses succès, par exemple des succès extraordinaires d'un point de vue sportif. Les derniers grands Jeux Olympiques où les athlètes de RDA ont fait des scores absolument incroyables en termes de médailles, c'est les Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo en 1984. C'était une fierté considérable. Et je pense qu'une partie aujourd'hui des frustrations des Allemands de l'Est, c'est qu'ils étaient très fiers quand même de leur pays, même s'il y avait des limites à leur liberté, et que évidemment reconnaît pas aujourd'hui qu'il y avait des accomplissements de ce pays.
Alors, pour tous ceux qui n'ont pas connu ça parce qu'ils étaient trop jeunes ou qui n'ont pas vu les images, ça ressemblait à quoi ce mur de Berlin ? Il y avait des miradors, des barbelés ?
Vous aviez d'abord un mur du côté occidental et un mur du côté oriental parce qu'on avait mis en profondeur et surtout, vous aviez tout un espace entre les deux où quand vous essayiez de franchir, vous vous y tiré dessus. On estime qu'il y a entre 130 et 140 personnes qui sont mortes en essayant de passer le mur de Berlin. Et évidemment, du côté de la RDA, il était très gris. Et de l'autre côté, à partir des années 70 et surtout des années 80, vous avez eu la mode des tags. Et donc, vous avez un mur extrêmement coloré. D'ailleurs, au lendemain de la chute du mur, tout le monde s'est un peu précipité pour pouvoir en acheter un morceau.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, tout est allé très vite après cette chute du mur à partir de 1989. Quelles ont été les conséquences concrètes sur l'Europe, mais aussi sur le monde ?
Alors, il faut bien resituer la chute du mur de Berlin dans un contexte plus général qui est le déclin et ensuite la fin de la guerre froide. Et donc, c'est, si vous voulez, l'unification allemande qui se fait à l'intérieur de l'OTAN, c'est quand même très largement une victoire occidentale. La perte par l'Union soviétique de toutes les démocraties populaires, et puis ensuite l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Donc c'est un changement absolument complet en Europe. Et puis si on élargit au monde, et l'objectif de mon livre est justement d'élargir au monde, ce qui s'est passé en 89 se place dans une transformation majeure du monde avec l'impression que beaucoup de conflits peuvent être réglés. C'est le début de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est le règlement d'un certain nombre de conflits, c'est en février 1989 le départ des troupes soviétiques d'Afghanistan, et puis c'est un moment aussi où on commence à réfléchir encore plus à des grands problèmes globaux. Au début de l'année 89, par exemple, vous avez des articles célèbres d'Al Gore qui dit que la planète est en train de, non pas de brûler, mais il va y avoir un holocauste environnemental.
Avant de vous libérer, Pierre Grosser, et de vous remercier, bien évidemment, est-ce qu'il y a une image, là, lorsque je vous parle de cette chute du mur de Berlin qui vous revient en priorité?
Moi, c'est une image que j'ai qui est un peu avant la chute du mur. Mmh. Eh bien, c'est un concert de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruce Springsteen, qui avait fait un concert à Berlin-Est qui a eu énormément d'écho. Il faut imaginer des dizaines de milliers de jeunes Est-Allemands qui commencent à chanter Born in the USA. Et j'imagine, ça c'est pas une image que j'ai vue, mais les gens de la Stasi, de la police politique est-allemande, qui devait pas être très content de ce genre de concert.
1989, l'année où le monde a basculé, c'est réédité aux éditions Timpus et c'est signé Pierre Grosser, notre invité ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout cela et d'avoir permis un plongeon dans l'histoire. Merci beaucoup, Pierre Grosser.